Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 3 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les ministres iraniens et japonais des affaires étrangères se sont entretenus au téléphone. Ils ont parlé divers sujets, entre autres les pourparlers de Vienne. Et s'agissant des pourparlers de Vienne, Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des affaires étrangères, a dit que ces pourparlers se poursuivent avec sérieux, axé sur la levée des sanctions. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Qahani, a appelé les États-Unis à quitter la région. Et s'agissant de l'actualité africaine, le président sénégalais ordonne à son gouvernement de mettre en œuvre les décisions de la 8e conférence ministérielle du FCSA. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue japonais, tout en mettant l'accent sur le fait que Téhéran s'est rendu à Vienne avec sérieux et un ordre du jour clair et logique, a déclaré quant à la volonté des intentions des États-Unis et du trio européen France, Royaume-Uni, Allemagne, nous ne sommes pas optimistes. Lors de cette conversation téléphonique avec son homologue japonais Hayashi Yushib Massad, Amir Abdollahian s'est penché sur les relations bilatérales et d'importantes des évolutions régionales et internationales. Dans leur conversation téléphonique, Amir Abdollahian a réitéré une fois de plus que l'Iran se félicite d'un bon accord et qu'il est sérieux dans le pourparlers de Vienne, affirmant que les autres parties à l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjointe doivent faire preuve de bonne volonté. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a estimé qu'un accord sur le programme nucléaire était à portée de main, mais dépendait de la bonne volonté des Occidentaux, estimant sérieux les pourparlers qui ont repris en début de semaine à Vienne. Un accord est à portée de main si l'Occident montre de la bonne volonté. Nous cherchons un dialogue rationnel, sobre et orienté sur le résultat, indiqué dans un tweet publié en fait par le chef de la diplomatie iranienne. Les discussions à Vienne se déroulent avec sérieux. La priorité reste la levée des sanctions, a-t-il martelé. Je suis en contact quotidien avec le chef des négociateurs Ali Borelli à Vienne, a-t-il précisé. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Qani, a conseillé aux États-Unis de sortir de la région proche de l'Iran. Sinon, ils seront expulsés d'une manière plus honteuse que celle d'Afghanistan. Nous disons aux États-Unis que vous avez encore le temps de quitter la région qui nous entoure. Sinon, vous serez expulsés d'une manière pire que le retrait que vous avez connu en Afghanistan, a déclaré. En fait, Ismail Qani, lors d'une cérémonie organisée pour commémorer le martyr d'un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique dans la province de Fars, dans le sud-ouest de l'Iran. Le commandant iranien a également souligné que Washington ne peut plus faire ce qu'il a fait dans le passé. Les tactiques, en fait, ne fonctionnent plus. M. Qani a noté que les États-Unis ont combattu en Afghanistan pendant 20 ans sans rien obtenir en échange, décrivant leur mission donc de ce pays asiatique comme la pire expérience de Washington. Le commandant de la force Quds a en outre déclaré que les sanctions et les menaces américaines imposées à la nation iranienne étaient vaines. Le ministère syrien de l'économie et du commerce extérieur et le ministère jordanien de l'industrie, du commerce et de l'approvisionnement ont annoncé la réouverture de la zone franche conjointe syro-jordanienne et le début des affaires et des activités commerciales et économiques à compter du premier jour de septembre 2021. Dans une déclaration conjointe, les deux parties ont indiqué que la réouverture de la zone vise à stimuler le commerce, attirer des investissements et activer le secteur des services, créant ainsi des opportunités d'emploi et contribuant à soutenir le processus de développement économique et social des deux pays. Le communiqué a souligné que la réouverture de la zone libre d'échange conjointe syro-jordanienne avait eu lieu après avoir rempli les conditions requises pour sa réhabilitation, l'avoir remise au travail et s'être assuré qu'elle était prête à recevoir des investissements des deux parties et des pays amis. Il a expliqué que la création de la zone franche a été réalisée conformément à un accord de coopération économique et de la réglementation des échanges commerciaux entre les deux pays pour être l'un des piliers de l'action économique arabe et commune. Le président sénégalais ordonne à son gouvernement de mettre en œuvre les décisions de la 8e conférence ministérielle du FCSR. Le président sénégalais Macky Sall a ordonné à son gouvernement de mettre en œuvre sans délai les importantes décisions prises à l'issue de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, FCSR. Macky Sall a donné des instructions au gouvernement lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Selon un communiqué publié à l'issue de cette réunion hebdomadaire, le président sénégalais s'est félicité de la tenue à Dakar de la 8e conférence ministérielle du FCSA avec un plan d'action 2022-2024. Il a remercié chaleureusement le président chinois Xi Jinping, avec qui il a co-présidé la 8e conférence du FCSA pour les importantes décisions qu'il a prises lors de l'ouverture de l'événement. Le président sénégalais a également salué la participation exceptionnelle des membres et le niveau très élevé de leur représentation. La Tunisie a réaffirmé sa détermination à aller de l'avant dans la lutte contre toutes les formes d'esclavage, la traite des êtres humains, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, appelant à multiplier les efforts sur le double plan régional et international afin de parvenir à résoudre les conflits, lutter contre la migration irrégulière et le crime organisé, a déclaré le ministère tunisien des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage, le ministère tunisien a indiqué que plus de 7 décennies après l'adoption de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 1949, les crimes d'esclavage et de traite des êtres humains existaient toujours sous de nouvelles formes d'esclavage contemporain qui ont été fortement exacerbées par la multiplicité des foyers de tension et de conflits à travers le monde. Le président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a créé une cour de répression des infractions économiques et financières pour lutter contre toutes les formes de détournement de fonds et de corruption, a annoncé le porte-parole du gouvernement lors du Conseil des ministres. Cette juridiction spéciale qui siégera à Conakry sera chargée de réprimer toutes les infractions à caractère économique ou financier décelées dans les services publics ou privés du pays. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, plus précisément de la Guinée, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Un accord est à la portée de main si l'autre partie fait preuve de volonté et de sérieux, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue japonais, tout en mettant l'accent sur le fait que Téhéran s'est rendu à Vienne avec sérieux et un ordre du jour clair et logique, a déclaré. Quant à la volonté et des intentions des États-Unis et du trio européen, France, Royaume-Uni, Allemagne, nous ne sommes pas optimistes. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue japonais Hayashi Yushish Massar, Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, se penche sur les relations bilatérales et d'importantes évolutions régionales et internationales. Dans leur conversation, Amir Abdollahian a réitéré une fois de plus que l'Iran se félicite d'un bon accord et qu'il est sérieux dans les pourparlers de Vienne, affirmant que les autres parties à l'accord nucléaire, officiellement connues sous le nom du plan global d'action commun, doivent faire preuve de bonne volonté. L'Iran a envoyé ses diplomates à Vienne avec une forte détermination et un agenda clair et logique, mais nous ne sommes pas optimistes quant à la volonté et l'intention des États-Unis et des trois pays européens qui sont signataires du plan global d'action conjoint, a fait remarquer Amir Abdollahian toujours à l'adresse de son homologue japonais. Outre l'Iran, les 5 puissances mondiales, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont envoyé leurs délégations à Vienne pour reprendre les discussions de haut niveau sur la levée des sanctions et la relance du plan global d'action conjoint. Après une pause de 5 mois, des diplomates américains se trouvent également sur place, mais l'Iran n'accepte pas qu'ils participent directement au pourparlers. avant et pendant le nouveau cycle qui a débuté dès lundi, Téhéran a déclaré à maintes reprises que la première et la plus importante question à traiter est la levée des sanctions américaines qui ont été mises en vigueur contre l'Iran après le retrait américain de l'accord nucléaire en mai 2018. Toujours lors de cet appel téléphonique, Amir Abdullahian a évoqué la dernière série de sanctions américaines contre l'Iran imposées quelques jours avant la reprise des pourparlers. Amir Abdullahian s'attarde à cette occasion sur la situation humanitaire inquiétante en Afghanistan et l'approche de la saison hivernale a souligné la nécessité d'une aide humanitaire urgente pour le pays. Le chef de la diplomatie iranienne a également souligné les différentes dimensions des relations bilatérales avant de faire part de la disponibilité de Téhéran à élargir les relations Téhéran-Tokyo dans divers domaines économiques, commerciaux, humanitaires, environnementaux et de santé. Dans tous les domaines, nous pouvons augmenter notre coopération, a-t-il souligné. Le ministre japonais des Affaires étrangères s'est pour sa part félicité de la reprise des pourparlers à Vienne, a émis l'espoir de voir les pays participants faire preuve de flexibilité afin de parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ces négociations qui se déroulent actuellement à Vienne entre l'Iran et le groupe 4 plus 1 sur la levée des sanctions injustement imposées au peuple iranien. C'est le troisième jour de ces négociations entre l'Iran et le groupe 5 plus 1 à Vienne. Si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone de la coopération bilatérale, des questions d'intérêt des communs, également de ces négociations nucléaires qui se déroulent actuellement à Vienne. L'objectif de la partie iranienne, c'est en fait d'obtenir d'un coup la levée en fait de ces sanctions injustement imposées au peuple iranien. Quelle est en fait la portée de ces négociations nucléaires? Quelle est l'importance de la position iranienne qui insiste sur le fait que voilà, ce sont les Américains qui ont violé l'accord nucléaire de 2015, et ce sont les Européens qui n'ont pas respecté les engagements pris dans le cadre de cet accord, et ils reviennent donc aux Américains et aux Européens, si vous voulez, de revenir à leurs engagements, de respecter pleinement leurs engagements pris dans le cadre de cet accord pour permettre en fait la conclusion d'un accord, si vous voulez, acceptable pour toutes les parties. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales au téléphone, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
À tous vos auditeurs et à votre invité, je promets.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortiguier, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Il s'agit de Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous. Merci à vous pour l'invitation et à professeur Dortiguier, bien sûr.
Maître de Volée, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Maître de Volée, je viens de lancer le sujet. Comment évaluez-vous ces négociations qui se déroulent actuellement à Vienne, s'il vous plaît?
Alors, vous l'avez mentionné, effectivement, donc c'est après une longue pause, la septième round de pourparlers, comme on dit, hein, et il s'agissait là, effectivement, dans un premier temps, de réunir les parties à l'accord, qui sont encore dans l'accord, donc sauf les États-Unis, pour s'accorder sur les termes de référence et sur une forme de base de travail. Mais il faut garder à l'esprit qu'effectivement, à distance, les négociations indirectes ont lieu entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique, que l'administration Joe Biden, une des caractéristiques de sa plateforme électorale était de réintégrer l'accord. Et comme vous l'avez souligné, effectivement, pour la République islamique d'Iran, en l'état, cela passe par non seulement la levée des sanctions qui avaient été initialement mise en œuvre, enfin en tout cas agréée lors de l'accord initial de 2015, mais aussi et également les sanctions additionnelles qui avaient fait l'objet de ce qu'on avait appelé la stratégie de pression maximale exercée par l'administration Trump, laquelle s'était empressée d'ajouter des sanctions supplémentaires. Et donc dans ce contexte précis, l'administration du président Raïsi demande bien sûr le respect des obligations des États-Unis, eu égard à ces sanctions initiales. La levée, ça va sans dire, des sanctions additionnelles imposées unilatéralement et de manière arbitraire par l'administration Trump, mais aussi, et il faut le dire, et c'est justifié en l'état, puisque la situation a évolué dans les faits, une garantie de la part des États-Unis que ces derniers... on peut que l'idée, l'envie leur en prenne de quitter à nouveau l'accord sur un prétexte des plus fallacieux. J'ajouterai à cela que, alors que ces négociations donc, ont résumé à Vienne, nous avons le Premier ministre israélien, donc Lapid, qui était à Paris, comme par hasard, a répété ce qu'on avait déjà entendu depuis des années sur... le fait que l'Iran était une menace et qu'il ne fallait absolument pas permettre ceci ou cela, un discours hystérisant, appelant pour non seulement plus de sanctions, mais même brandir la menace militaire. Donc en fait, un discours complètement irrationnel et hystérique, et qui est bien sûr, qui coïncide parfaitement, la visite de Lapid à Paris coïncide parfaitement avec la reprise des négociations à Vienne. Donc on voit qu'en coulisses, les conspirateurs, comme dirait le professeur d'Ortiguier, les comploteurs s'activent en coulisses pour faire dérailler toute reprise diplomatique et toute résolution de facto politique de ce dossier qui ne devrait pas en être un, mais qui malheureusement aujourd'hui est remis sur la table pour les raisons que je viens d'invoquer.
Monsieur d'Ortiguier, selon Maître de Volée, il y a des agissements en coulisses de ceux qui ont cherché et cherchent toujours à entraver en fait le processus de ces négociations entre l'Iran et le 4+1. Qu'est-ce que vous en pensez?
En effet, il s'agit bien sûr de l'entité sioniste qui est le conducteur et peut-être qu'il y a le seul État qui a intérêt à troubler ces négociations pour pouvoir toujours justifier de son existence comme pouvoir présenter son existence comme menacée par un adversaire fanatique, etc., qu'elle désigne comme l'Iran. Voilà, c'est une sorte de présentation primaire, bien sûr, et qui se répand dans la presse. Et évidemment, cela n'a pas changé avec l'arrivée de M. Bennett au pouvoir. Je dirais même que il semble que sous des apparences peut-être différentes, avec un langage différent, peut-être mêlé d'un peu de gauche, si je puis dire, M. Bennett envisage pour moi simplement l'horizon d'une guerre avec l'Iran, voyez-vous. Ça, c'est un très grave danger. Il ne faut pas le surestimer, c'est-à-dire rentrer dans le jeu, bien sûr, de ces gens-là. Mais ce sont des personnes qui... sont prêtes à mettre le feu au monde, disons, pourquoi par irréalisme, c'est-à-dire par une sorte d'hystérie, comme l'a dit Maître de Clé. C'est une hystérie qui tient à plusieurs causes. Ça, nous ne sommes pas ici pour les analyser ou les faire défiler. Mais il est certain que cela représente une entrave, bien sûr, dans ces négociations. Et il y a aussi, bien sûr, comme Maître de Clé l'a dit, vous l'avez présenté aussi, monsieur Norostine, vous avez les efforts de l'Iran pour reprendre cet argent qui a été volé ou gelé, disons, par l'administration américaine. Et bien sûr, comme nous avons vu comme un fait positif, que par exemple le Bahreïn a été condamné, je crois, à restituer de l'argent à l'Iran qui avait été gelé. Bon, c'est un geste, disons, mais cela n'empêche pas que les ennemis, non pas ouverts, mais les ennemis, disons, secrets, de cet accord, les saboteurs de cet accord sont toujours à l'œuvre, et donc l'Iran doit, disons, à la fois se maîtriser dans son jeu diplomatique, en même temps que rester sur ses gardes à tout point de vue, car il a affaire, bien sûr, à des ennemis, disons, aveugles, irresponsables, et je reprends le mot hystérique.
Maître de Velay, en fait, de la partie iranienne a, comme je viens de le dire, comme la principale exigence, la levée totale de ces sanctions imposées au peuple iranien. Et d'une part, d'autre part, il n'est absolument pas question pour l'Iran de renoncer à son droit qu'est l'accès au nucléaire civil. Alors l'Iran l'a dit, en fait, qui va en fait mettre à profit, qui va en fait mobiliser tous ses moyens pour faire valoir ses droits en cette matière. Pour parvenir à un accord, Maître de Velay, la balle est dans le camp de l'autre partie, n'est-ce pas, Maître de Velay?
Excusez-moi, je n'ai pas compris la dernière partie.
La balle est dans le camp de l'autre partie.
Oui, absolument. L'Iran a toujours été parfaitement consistant et immuable dans sa façon de procéder, que ce soit d'ailleurs dans le dossier dit nucléaire ou dans tout autre dossier. Et la responsabilité quant à l'impasse artificiellement créée ou sciemment créée, ça c'est une autre histoire, encore une fois, on pourrait en parler, dans le contexte des négociations sur le programme nucléaire. L'Iran, de toute façon, étant signataire du traité de non-prolifération, ayant donc déclaré ses activités, cela lui donne le droit de développer des activités civiles. Donc cette histoire qui porterait à laisser entendre que l'Iran pourrait, à la faveur de je ne sais quel millénarisme, c'est encore une fois les provocateurs, toujours les mêmes, qui laissent entendre dans un processus grossier de diabolisation que l'Iran aurait des visées régionales, mondiales et que sais-je encore, et donc serait tenté d'obtenir l'arme nucléaire. L'Iran n'a pas besoin de l'arme nucléaire. Et l'ayatollah Ruhollah Khomeini l'avait déjà dit dans une fatwa il y a déjà très longtemps de cela. Donc, la consistance des positions iraniennes sur le sujet est bien connue, mais cela n'empêche pas effectivement, au travers des discours hystérisants sionistes, de par exemple laisser entendre que l'Iran aurait enrichi à 90% ou qu'il n'aurait pas le droit d'augmenter à 60% les articles 26 et 36 du traité, donc résolution 2231, en cas de non-respect de leurs obligations, donnent la possibilité à l'Iran, après une année où elle a montré de la patience, effectivement, de réactiver l'enrichissement. Il en est de même par rapport aux inspections. Les caméras installées par l'Agence atomique internationale ont été en opération, encore une fois, pendant cette période de 12 mois, après quoi l'Iran a opéré ses prérogatives dans le contexte de l'accord qui avait été signé en 2015 et a décidé de restreindre l'accès donc, à ces caméras. L'Iran est parfaitement cohérent après à respecter ses obligations pour peu que, encore une fois, et vous l'avez souligné, les Européens arrêtent de faire mine de respecter leurs obligations. dont on devra rappeler à nos téléspectateurs qu'ils avaient promis un système alternatif dit Instex qui allait contourner éventuellement les transactions avec la République islamique d'Iran au travers d'une forme de troc. On n'a jamais vu le jour de ce système alternatif. Et surtout, donc, pour les Américains, d'arrêter d'essayer d'élargir, si je puis dire, la substantifique moelle de l'accord initial pour y inclure des sujets qui n'ont absolument aucun attrait avec ce pourquoi on s'est assis pour discuter in the first place, comme on dit, dès le départ, et donc de faire preuve de bonne foi et de lever ces sanctions, et de manière vérifiable, parce que l'administration du président Raisi a été claire. Il ne s'agit pas juste maintenant d'avoir, je peux dire, des proclamations vaines. Il faut que non seulement les sanctions soient levées, mais que la levée de ces sanctions, dans le sens où ça pourrait bénéficier au peuple iranien, soit vérifiable. Ce qui veut dire qu'il faudra probablement attendre au moins 6 mois, voire 1 an, pour commencer à voir les effets bénéfiques sur l'économie iranienne de la levée de ces sanctions.
Monsieur d'Ortiguier, en fait, je viens de le dire tout à l'heure, il n'est pas question pour l'Iran de renoncer à son droit qu'est l'accès au nucléaire civil, et il n'est absolument pas question pour l'Iran de produire l'arme nucléaire, d'accéder à l'arme nucléaire. Il y a en fait un décret religieux, une fatwa, un décret religieux émis par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, qui interdit en fait la production, le stockage et l'utilisation de l'arme nucléaire, de l'arme atomique. Monsieur Tortiguet, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, dans la foulée, il y a eu cette conversation téléphonique entre les présidents iraniens et français, respectivement Ebrahim Raisi et Emmanuel Macron. Ils ont parlé de politique, de coopération bilatérale, lutte contre ce nouveau variant du coronavirus, question d'intérêt et commun également. Ils ont parlé de ces négociations nucléaires sur la levée des sanctions contre l'Iran. Monsieur Tortiguet, quel rôle peut jouer la France pour permettre en fait l'avancée de ces négociations et la conclusion d'un accord définitif?
Eh bien, la France, en effet, peut jouer un rôle, et ceci n'est pas du tout une opinion, je dirais, de Français seulement, mais c'est que ce que nous observons quand nous entendons, en tout cas, c'est ce que je ressens beaucoup, le réalisme des propos de M. Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, et dans beaucoup de domaines, du reste, hein, tant dans les relations avec la Russie qu'avec l'Europe de l'Est, enfin. Nous sentons qu'il y a autour du président de la République certainement une force, enfin une force politique représentée, je le dis surtout par M. Le Drian, qui, disons, veut faire abstraction de toute idéologie et de voir les choses comme elles sont. Je crois qu'il ne faut pas, bien sûr, exagérer cette tendance, mais elle existe. Et M. Le Drian, l'autre jour, interrogé pendant la campagne électorale, a redit le rôle du président Macron quant à la conférence de Bagdad, lorsque l'Iran était à côté, disons, de pays arabes, comme les Émirats et autres, et que c'était là ce qui était souhaitable, bien sûr. Donc, la France représente, au nom de l'Europe, bien sûr, représente ou dessine, si je puis dire, une tendance qui est rationnelle. Alors, en ce sens, la France est capable, disons, de mobiliser l'Europe diplomatiquement là-dessus. Ce que les Allemands ne peuvent pas faire eux-mêmes pour des raisons bien connues, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en avant, je crois que les Français, en effet, peuvent le faire. Malheureusement, s'il y a des trucs consécutifs à nos élections et autres, peut-être que cette n'a pas suivi, mais en tout cas, elle est dessinée. Il ne faudrait pas la sous-estimer. Je ne dis pas ça pour pouvoir mettre en valeur, pour flatter le gouvernement français, mais nous sentons qu'il y a, depuis quelques mois en tout cas, une tendance réaliste. Voyez ? Et je crois que ceci nous apparaît. Il y a bien sûr des aspects secrets qui nous échappent, comme dans toute diplomatie, Mais je crois que le réalisme en France, sur cette question iranienne, l'a emporté. Voyez-vous ? Et que c'est pour cela que, je termine là-dessus, que les Israéliens, par exemple, après leur séjour à un ministre israélien, après, je crois que c'est David, justement, après son séjour à Londres, voyez-vous, a voulu justement jeter de l'huile sur le feu ici à Paris. Parce que les Israéliens sentent effectivement que de ce point de vue, disons, la France a ce que, une sorte de, je ne dis pas de gaullisme, enfin, une sorte de réalisme, je répète encore, qui est conforme à ses intérêts, bien sûr, à long terme, et aussi conforme à une bonne partie de l'Europe continentale, qui s'exprime justement, je le redis toujours, par l'intermédiaire des Français. Voilà. Ceci n'est pas du tout un fantasme, je crois que c'est une réalité, et malheureusement, contre cette réalité, nous pouvons avoir des offensives de presse, des offensives de campagne électorale, de campagne de presse et autres, voyez-vous, venant de ces milieux, de ces comploteurs, comme je dis, conspirationnistes. Oui, je crois en tout cas que nous pouvons, disons, faire confiance quand même à cette tendance réaliste, je dis, de la diplomatie française.
Monsieur Develet, Maître Develet, s'agissant toujours en fait du rôle que peut jouer en fait la France, lors de cette conversation téléphonique avec son homologue français, le président Raisi a dit que voilà, nous l'avons déjà montré, nous tenons à nos paroles et nous respectons nos engagements. Ce sont les Américains qui ont quitté l'accord, ce sont les Européens qui n'ont pas respecté pleinement leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Alors si, en fait, j'insiste encore sur ce point, pour parvenir à cet accord, il faut en fait respecter le droit de l'Iran à l'accès au nucléaire civil. Il faut respecter l'exigence principale de l'Iran, qui est la levée quand même de ces sanctions injustes imposées depuis plusieurs années contre le pays, Maître Develet.
Oui, tout à fait. Enfin, tout ça, on ne va pas réinventer la roue. Les termes de référence sont contenus. Le quiproquo et les considérations de part et d'autre ont été depuis belle lurette établies. La question, et je ferai en cela un prolongement de la réponse donnée par le professeur d'Ortiguet sur la possibilité, la capacité que peut avoir la France d'influer sur un résultat positif de ces négociations. Effectivement, il y a en France des milieux qui on pourrait apparenter à une doctrine dite réaliste. Réaliste pourquoi ? Parce que beaucoup de sociétés françaises, et pas des moindres, ont depuis des années lorgné sur le marché iranien et les affaires que cela pourrait engendrer. Mais je rappellerai juste à nos auditeurs que dans le cadre, par exemple, de l'affaire Alstom, où on ne va pas refaire l'affaire Alstom ici, mais suffisons de dire que la séquence principale de la création de ces centrales nucléaires, où la France possédait l'exclusivité intellectuelle sur le processus de A à Z, a vu en fait les turbines qui ont besoin, qui sont l'essentiel, qui sont le cœur d'une centrale nucléaire civile, a été vendue au géant américain General Electric, par exemple.
Merci beaucoup.
On sait très bien que dans ce contexte-là, les éléments sionistes au sein du Quai d'Orsay ont joué activement le rôle de lobbying avec des institutions bancaires pour faire en sorte que cette vente se fasse et donc pour punir pour empêcher les velléités de ces groupes français de faire des affaires avec l'Iran.
Merci beaucoup.
Donc il ne faut jamais sous-estimer effectivement l'aspect néoconservateur qui s'est emparé de la politique étrangère française, malheureusement.
Merci infiniment, Maître Arnaud Develet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Pierre d'Ortiguier, d'avoir été en ligne avec moi depuis Toulouse pour cette émission. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Le spectacle de clowns de l'Otanistan. la mascarade est arrivée à un point qui, diplomatiquement, est tout à fait sans précédent. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a perdu sa patience taoïste. L'hystérie américaine concernant l'invasion imminente de l'Ukraine par la Russie a fait exploser tous les compteurs de stupidité géopolitique en vue, et c'est tout un exploit. Quel gâchis, des sections de l'État profond américain sont en révolte ouverte contre le combo qui télécommande l'idiot de crash test qui se fait passer pour le POTUS. L'axe néocon néolibéral a envie d'une guerre, mais ne sait pas du tout comment la vendre à une opinion publique extrêmement divisée. UKUS qui comprend Royaume-Uni, États-Unis, qui contrôle de facto le système d'espionnage des Five Eyes, n'excelle que dans la propagande. Au bout du compte, c'est donc à l'axe de renseignement CIA et MI6 et à son vaste réseau de chihuahua médiatique qu'il incombe d'accélérer le processus de peur et de dégoût à l'infini. Les russophobes du think tank land américain apprécieraient beaucoup une invasion russe à l'improviste et se ficheraient éperdument de l'inévitable défaite de l'Ukraine. Le problème est que la Maison-Blanche et le Pentagone doivent intervenir avec force, sinon cela représentera une perte catastrophique de crédibilité pour l'Empire. Alors que veulent ces gens ? Ils veulent provoquer Moscou par tous les moyens disponibles pour provoquer une agression russe, ce qui entraînera une guerre rapide comme l'éclair, qui sera une autoroute vers l'enfer pour l'Ukraine, mais avec zéro perte pour l'OTAN et le Pentagone. Ensuite, l'Empire du Chaos accusera la Russie, déclenchera un tsunami de nouvelles sanctions, notamment financières, et tentera de couper tous les liens économiques entre la Russie et l'OTAN. La réalité veut que rien de ce qui précède ne se produise. Les représentants du leadership russe, à commencer par le président Poutine, ont déjà fait savoir à maintes reprises ce qui se passerait si les démocrates ukrainiens lançaient une guerre éclair dans le Donbass. L'Ukraine sera impitoyablement écrasée. Et cela ne s'applique pas seulement aux gangs ethno-fascistes de Kiev. L'Ukraine cessera d'exister en tant qu'État. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a quant à lui mis en scène toutes sortes d'actions de persuasion pas vraiment douces avec des bombardiers Tu-22M3 ou des bombardiers Tu-160 White Swan. L'inestimable André Martianov a expliqué de manière concluante à maintes reprises également que l'OTAN ne dispose pas de force non seulement pour contrecarrer tout ce que fait la Russie, mais même si elle le voulait, elle n'a toujours pas les moyens de faire la guerre à la Russie. Martianov note qu'il n'y a rien dans l'arsenal américain aujourd'hui et dans un avenir prévisible qui puisse intercepter des cibles Mach 9-10+, et encore moins les Mach 20-27. C'est là le problème, la même méthode d'analyse s'applique à une situation en erreur 404. La seule chose que les États-Unis ou l'OTAN peuvent espérer est de provoquer d'une manière ou d'une autre la Russie pour qu'elle envahisse ce pays, puis d'obtenir tous les SIGINT possibles une fois que le C4 ISR de la Russie sera en mode de combat complet. Traduction, quoi que l'Empire du Chaos et sa filiale de l'OTAN tentent dans le Donbass, directement ou indirectement, l'humiliation fera passer le retrait d'Afghanistan pour un dîner de la maison Gucci. Personne ne devrait s'attendre à ce que les marionnettes de l'OTAN, à commencer par le secrétaire général Stoltenberg, comprennent les enjeux militaires. Après tout, ce sont ces mêmes marionnettes qui ont mis en place une situation qui pourrait finalement laisser Moscou face à un choix unique et brutal, être prêt à mener une guerre chaude à grande échelle en Europe qui pourrait devenir nucléaire en un éclair. Et ils sont prêts. dans une réalité parallèle, s'ingérer en 404 une délicieuse référence de Martianov à un enfer bien plus qu'une erreur informatique est une histoire totalement différente. Cela correspond parfaitement à l'étau de la juvénilité américaine. Au moins, certains des adultes dans les pièces sélectionnées parlent. Burns, de la CIA, s'est rendu à Moscou pour tenter d'obtenir l'assurance que dans le cas où les forces spéciales de l'OTAN seraient prises dans les chaudrons, style Debaltsevo 2015, que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, avec l'aide de la Russie, concocteront, elles seraient autorisées à s'échapper. Son interlocuteur, Patrouchev, a dit à Burns, diplomatiquement, d'aller se faire voir. Le chef d'état-major général, le général Valéry Gerasimov, a eu un entretien téléphonique avec le président des chefs d'état-major interarmés, le général Mark Milley, apparemment pour assurer en pentagonais la réduction des risques et la déconfliction opérationnelle. Aucun détail substantiel n'a pourtant été divulgué. Il reste à voir comment cette déconfliction se produira dans la pratique lorsque le ministre de la Défense Shoigu a révélé que les bombardiers américains à capacité nucléaire se sont exercés lors de leur sortie en Europe de l'Est à utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Shoigu en a discuté en détail avec le ministre chinois de la Défense, Wei Fengge, et après tout, les Américains ne manqueront pas de faire le même coup contre la Chine. La cause profonde de tout ce drame est évidente. Kiev refuse tout simplement de respecter l'accord de Minsk de février 2015. En résumé, cet accord stipulait que Kiev devait accorder l'autonomie au Donbass par le biais d'un amendement constitutionnel appelé « statut spécial », décréter une amnistie générale et entamer un dialogue avec les républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Au fil des ans, Kiev n'a rempli aucun de ses engagements, tandis que l'habituelle machine médiatique de l'OTAN n'a cessé de marteler l'opinion mondiale de fausses nouvelles, affirmant que la Russie violait Minsk. La Russie n'est même pas mentionnée dans l'accord. En fait, Moscou a toujours respecté l'accord de Minsk, ce qui signifie que le Donbass est considéré comme une partie intégrante et autonome de l'Ukraine. Moscou n'a aucun intérêt à promouvoir un changement de régime à Kiev. Cette mascarade a atteint un point qui, sur le plan diplomatique, est sans précédent. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a perdu sa patience taoïste. Lavrov a été contraint, dans ces circonstances, de publier 28 pages de correspondance entre Moscou d'une part et Berlin et Paris d'autre part, évoluant autour de la préparation d'une réunion de haut niveau sur l'Ukraine. Moscou demandait en effet la mise en œuvre d'un des points centraux de l'accord, un dialogue direct entre Kiev et le Donbass. Berlin et Paris ont déclaré que cela était inacceptable. Alors oui, tous deux ont, à toute fin pratique, détruit l'accord de Minsk. L'opinion publique à travers l'OTANistan n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Lavrov n'a pas mâché ses mots. Je suis sûr que vous comprenez la nécessité de cette démarche non conventionnelle car il s'agit de transmettre à la communauté mondiale la vérité sur qui se conforme et comment aux obligations du droit international qui ont été convenues au plus haut niveau. Il n'est donc pas étonnant que les dirigeants de Moscou aient conclu que c'était une perte de temps absolue de parler de l'Ukraine avec Berlin et Paris. Ils ont menti, triché, puis rejeté la faute sur la Russie. Cette décision au niveau de l'Union européenne reflète fidèlement la campagne de l'OTAN visant à attiser les flammes d'une agression russe imminente contre l'Ukraine. En OTANistan, la stupidité caractéristique du think tank land américain règne sans partage, rassemblant d'innombrables acolytes crachant les points de discussion de leur choix. Subversion russe implacable, intimidation de l'Ukraine par le voyou Poutine, russe comme prédateur et tout ce qui est maintenant associé à la guerre de la Chine avide de pouvoir contre les valeurs occidentales. Un hack britannique d'une manière tordue a réussi à résumer l'impuissance globale et l'insignifiance en décrivant l'Europe comme une victime, une île démocratique assiégée dans un monde anarchique qu'une marée montante d'autoritarisme, d'impunité et de violation des règles internationales menace d'inonder. La réponse des ministres de la Défense des pays de l'OTAN consiste à élaborer une boussole stratégique, essentiellement une arnaque anti-Russie-Chine assortie de forces à déploiement rapide. Dirigée par qui ? Le général Macron ? En l'état actuel des choses, le pauvre otanistan sanglote de manière incontrôlable, accusant ces hooligans russes des monstres effrayants, pour citer David Bowie, d'avoir mis en scène un test de missile anti-satellite et d'avoir ainsi méprisé les préoccupations européennes en matière de sécurité. Quelque chose a dû se perdre dans la traduction. Voici donc ce qui s'est passé. La Russie a démontré de manière concluante qu'elle était capable d'anéantir chacun des satellites de l'OTAN et d'aveugler tous leurs missiles, avions et navires, sans parler des forces terrestres, au cas où ils décideraient de concrétiser leurs idées bellicistes. Il est évident que ces clowns sourds, muets et aveugles de l'Otanistan, tout juste sortis de leur performance en Afghanistan, ne comprendront pas le message. Mais de toute façon, l'Otanistan n'a jamais été accusé d'être partial face à la réalité.
Thank you.